RCF. Bonsoir à tous, bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Magazine régional avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes avec pas mal de nouvelles ce soir. Nous sommes un peu pressés par le temps, mais on peut dire que l'actualité locale du journal, ça sera tout de même ce qui se passe avec les manifestations, en tout cas
effectivement,
devant les mairies.
Sur les violences urbaines, la visite de Gérald Darmanin dans la Marne et à Reims plus particulièrement ce matin. Arnaud Robinet qui était sur l'esplanade Simone Veil à midi à l'appel de l'Association des maires de France. Tous les titres et toutes ces actualités seront développées tout à l'heure.
Et on reviendra sur la déclaration de la conférence des responsables de culte en France. Mais tout de suite, Alexis, vous nous proposez de regarder sur le monde avec Claude Ruiz en studio ce lundi soir.
Claude Ruiz, bonjour.
Bonjour.
Pour regarder sur le monde, c'est vrai que c'est la période estivale sur les ondes de RCF, alors ce n'est pas encore tout à fait les vacances scolaires, il va falloir patienter jusqu'à la fin de la semaine pour ceux qui sont vraiment basés sur le calendrier initial, j'allais dire, mais c'est vrai que l'été vient de débuter, c'était le 21 juin dernier. On est dans cette période des vacances, des pèlerinages avec vous, Claude Ruiz, et on va parler d'une relance spirituelle. Nous allons donc nous arrêter sur un pèlerinage médiéval, plutôt bien connu, je pense, des auditeurs de RCF, celui de Compostelle, Claude Ruiz.
Oui, en effet, les pèlerinages sont beaucoup plus importants, on va dire, à la belle saison, si tant est qu'il y ait une belle saison, donc... Mais c'est d'autant plus qu'elles évoluent beaucoup. Alors, cette période est aussi une période de renouveau spirituel. Ça peut être ancien. Vous savez, c'est le phénomène saisonnier aussi. Hein. On retrouve l'ouverture, plus d'optimisme.
Avec les beaux jours, ça donne l'envie de sortir, les
voilà.
Vitamines D, l'envie
Exactement.
D'aller voir ailleurs ce qui s'y passe.
Exactement. Puis, je veux dire, dans les sociétés traditionnelles en plus, on sortait plus facilement. Aujourd'hui, on peut prendre sa voiture en hiver. À l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Donc, on a un petit peu ces rythmes. Hein. Alors, on peut s'arrêter sur celui du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, Saint-Jacques-de-Compostelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est au nord-ouest de l'Espagne, en Galice. Hein, les régions qui donnent sur l'Atlantique, sur cette sorte de balcon hein, que représente l'Atlantique. Alors, c'est un espace actif, je dirais, depuis un millier d'années. L'objectif de ce pèlerinage, c'est d'atteindre le lieu du dernier repos de Saint-Jacques. Saint-Jacques apôtre serait enterré, donc, à Saint-Jacques, puisqu'il a donné son nom au lieu, pratiquement à l'extrême nord-ouest. C'est un voyage à la fois historique, spirituel, souvent collectif. C'est toujours une aventure, puisque les marcheurs, du moins pour ceux qui réalisent ce chemin de Saint-Jacques, le font à pied. Et l'histoire, je dirais, est aussi vieille que la chrétienté elle-même. Suivant Jésus dans sa résurrection, Saint-Jacques donc prend la tête de l'Église. De Jérusalem, il se déplace, hein, puisqu'il y a une volonté, en fin de compte, de témoigner tout au long de la Méditerranée. Il va vers l'Espagne pour répandre la parole. Et puis, il revient en Terre Sainte et c'est là où il sera martyrisé. Mais son corps aurait été donc embarqué vers le nord de l'Espagne, c'est-à-dire de là où il venait.
Mais alors, comment expliquer cette localisation, finalement, Claude Ruiz ?
Alors, cette localisation au 9e siècle, en réalité, il y a une redécouverte. Vous savez, il y a toujours des découvertes ou redécouvertes. Et là, c'est un ermite de Galicien, Pélage, qui a une vision et qui cherche, en fin de compte, ce tombeau. Et il tombe sur une tombe, donc à Saint-Jacques, dans cette région. Ça ne s'appelait pas, bien entendu, vous avez bien compris, Saint-Jacques à l'époque. Donc, il tombe sur une tombe romaine et, à travers cette vision, il considère et il indique que c'est le tombeau du saint. Donc, construction d'une église, une petite chapelle au départ, une église, ça attire beaucoup de pèlerins. On est dans une période aussi d'expansion, on va dire, du christianisme. Et en 3 siècles, c'est devenu le premier centre de pèlerinage en Europe. Alors, bien entendu, c'est très éloigné de l'espace européen, puisque vous le voyez bien, l'Espagne du nord-ouest, c'est tout à fait à l'ouest, hein, ouest-sud-ouest de l'Europe. Et donc, il faut passer les Pyrénées. Il y a plusieurs chemins, bien entendu, puisque les pèlerins n'arrivent pas du même endroit. Il y en a qui arrivent d'Angleterre, d'autres d'Europe centrale, etc. Et il y a un passage qui porte le nom même de chemin français, Camino Francés, et qui traverse Pays Basque, Cantabrie et Asturie. Donc l'itinéraire le plus connu, c'est ça. C'est pour nous en France, c'est Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jacques. 750 kilomètres.
Quand même.
Oui, il faut le vouloir, hein. Il faut se transcender pour arriver au bout. Donc, on traverse le nord-nord-ouest de l'Espagne, le rebord du plateau castillan, et donc les montagnes, c'est très montagneux, de la Navarre, hein, en passant par la Rioja, la Cantabrie, etc. J'en passe et les meilleurs, les Asturies, et on débouche en Galice. Donc c'est quelque chose qui demande des semaines, voire pour certains des mois de marche.
Ce pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle qui nous mène jusqu'à une cathédrale, justement, d'où provient la cathédrale de Saint-Jacques actuelle?
Alors, vous l'avez vu avec Pélage, il y a eu une première chapelle, puis ensuite des constructions successives, puisque, en fin de compte, il y a eu un phénomène attractif. La première chapelle importante a été détruite autour de l'an 1000, en 997. Il y a eu une nouvelle construction, puisque les pèlerins aussi ont amené un petit peu d'argent pour pouvoir aider à cette reconstruction en 1075, parce que je vous rappelle qu'en 1075, si je vous remets ça dans l'histoire globale, vous le savez, les musulmans ont progressé depuis le 8e siècle en Espagne et ont grimpé jusqu'au nord pratiquement, et ce sont ces régions qui ont, je dirais, formé une limite. Donc, il y a eu une structure médiévale de base, et puis se sont superposés un certain nombre d'architectures, au départ sur le modèle roman, puis gothique. C'est très mélangé, ce qui fait que l'église actuelle est aussi composite, le baroque, voire même le néoclassique. Donc c'est une synthèse. Et de ce fait, la façade de la cathédrale de Saint-Jacques est très complexe, hein, c'est quelque chose à retenir. Donc les pèlerins viennent pour voir, à la fois ils doivent passer par le porche de gloire, voir le jugement dernier, le Christ, Saint-Jacques. Donc il y a des sortes d'étapes, si vous voulez, à l'intérieur, un circuit quand on est sur place, et le tombeau se trouve sous l'autel principal. Donc le trajet des pèlerins est même codifié, hein, parce que comme il y a beaucoup de monde à certains jours, en particulier en période estivale, faut tourner dans les sens des aiguilles d'une montre, et tous les jours il y a une messe à midi, donc dans la cathédrale de Saint-Jacques.
Mais alors, Claude Ruiz, vous venez de nous parler de cette tombe. Est-ce que c'est l'objectif concret de se recueillir devant cette tombe?
Alors, c'est pas seulement l'objectif final, mais c'est le voyage en lui-même. Hein. C'est le voyage en lui-même qui est un défi, qui représente un certain nombre d'obstacles. Une vie parfois aussi communautaire, il faut s'habituer, il y a le partage. Il y a toute une expérience du voyage et c'est ceci qui est relativement important et qui a été relancé récemment, puisqu'on est dans une période post-Covid. Le Covid ayant été une période un petit peu de rétraction sur certains aspects.
Eh bien, merci Claude Ruiz de nous avoir fait regarder sur le monde et en cette période estivale de nous avoir emmené du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. Peut-être que certains de nos auditeurs vont se mettre en marche pour ce pèlerinage, vous l'avez dit, qui est avant tout un défi. Grand merci Claude Ruiz d'avoir été avec nous tout au long de la saison. Pendant l'été, sur les ondes de RCF France Ardennes, on aura aussi le plaisir de vous retrouver avec des programmes que vous nous avez concoctés autour de Christophe Colomb, où est-il enterré. Vous nous direz aussi qu'il faut manger des fruits, vous nous parlerez de l'ananas, et puis vous nous parlerez d'espaces protégés. Pourquoi faire? C'est une des questions que l'on se posera. Pour ça, il faudrait être fidèle aux programmes locaux de la radio RCF. Mais quant à nous, Claude, pour l'instant, vous souhaitez un bel été. Vous prenez un petit peu de vacances, vous aussi?
Oui, je vais me reposer longuement, je crois, pendant cet été. Donc, bel été à tous.
Et petite dernière question, est-ce que vous allez regarder sur le monde pendant l'été ou est-ce que vous allez regarder dans la Marne?
Ben écoutez, pendant l'été, je vais peut-être me reposer pour ensuite aller regarder sur le monde d'autres continents.
Très bien, on sait que vous avez des pieds à terre un petit peu partout à travers le globe. À bientôt, Claude Ruiz.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et donc 18-19, il est 18h19. On vous laisse quelques instants reprendre votre souffle. Direction la campagne avec Hubert le jardinier, avec nous au téléphone et avec Alexis.
Hubert, bonjour.
Bonjour.
Hubert, qu'est-ce que l'on fait dans nos jardins? Est-ce que les averses qui ont eu lieu récemment, voire les tendances orageuses, ont permis de rafraîchir la terre? Est-ce que ça a été suffisant pour changer la donne, j'allais dire, du côté de nos jardins?
Ah oui, ça a vraiment changé la donne. En fait, ça fait le plus grand bien. Alors, toutes les plantes qui avaient besoin d'un peu d'eau, ça a permis justement aux plantes de pouvoir rattraper un peu leur retard. Comme la terre est chaude, ça va relativement assez vite. Alors, moi, j'en ai profité, justement, puisque le sol était humide. Eh bien, j'ai semé mes haricots. Vous savez que les haricots, on peut les semer, autrefois, on disait jusqu'au 14 juillet. Alors, maintenant, on peut aller même un petit peu plus loin. On peut aller même jusqu'à la fin juillet. Car il faut compter 60 jours à partir du moment où on sème ses haricots pour la récolte. Alors avec le réchauffement climatique, le changement de climat, on arrive à récolter beaucoup plus tard les haricots. Donc il faut en profiter. C'était le moment. Alors ça, faut surtout pas oublier, Alexis, c'est les semis de la chicorée scarole. Car c'est vraiment ces salades qu'on va retrouver en automne ou en fin d'été. Il faut le faire maintenant. Alors, il y a peut-être une petite règle, parce que je crois que d'ici quelques jours, on nous annonce encore des températures assez chaudes, je pense. Alors, s'il fait du grand soleil, pourquoi ne pas ombrer vos plantes? Donc, vous mettez un petit canis par-dessus, on peut mettre des cageots, des cagettes, pour accentuer justement cette ombre. Et là, on aurait une belle levée de chicorée. Alors, pour avoir une belle levée, il y a une astuce très simple. Je sais que le sol est humide, on va tracer un sillon. On va tracer un sillon dans... Alors ça, on fait ça en pleine terre, hein, dans le potager, dans une bonne terre. On trace son sillon. On gorge le sillon d'eau. Il faut bien l'arroser. Alors, on utilise un arrosoir, enfin, peu importe, mais ce qu'il faut, c'est bien l'arroser. Il faut que la terre soit presque replaquée au fond du sillon. On va déposer ses graines. Alors, une à une, on va essayer de les distancer le plus possible. Et on recache. Mais on recache pas avec de la terre humide. On va recacher avec de la terre sèche. Ensuite, bon, si vraiment il faisait très très sec, une possibilité, c'est d'étendre des journaux sur le semis pour conserver l'humidité. Alors surtout, méfiez-vous parce que au bout de 5 jours, une semaine, la levée est déjà, on voit déjà les chicorées scaroles levées. Donc il faut vite retirer les feuilles de journaux. Et si on voit que les feuilles s'étirent un tout petit peu, on prend un tamis. Et on tamise un tout petit peu de terre sèche sur les salades. Voilà ce qu'on peut faire, Alexis.
Voilà pour les premiers conseils du jardin, Hubert. Alors, c'est vrai que l'on parlait un petit peu de la pluie et du beau temps avec ces averses qui, vous le dites vous-même, Hubert le jardinier, ont fait du bien. Quel est votre constat général sur la nature avec ce temps? Parce que, pour tout vous dire, j'étais moi-même du côté de Bouillon dans les Ardennes belges, donc hier, et sur la route entre Bouillon et les Ardennes, je me disais la nature me paraît quand même bien verte malgré les températures très chaudes que l'on a eues en ce début de saison.
Moi, je trouve que la nature est verte, chez nous, hein. Et vous avez raison hein, de le dire. Si on se porte auprès des agriculteurs, ceux qui ont fait des foins, par exemple, on dit toujours une année de foin, une année de rien, mais je pense que cette année, ça ne doit pas être si mauvais que ça. Donc, ils ont ramassé leurs foins, et habituellement, avec la chaleur, le soleil, l'herbe le grille. Donc, on voit que tout est jaune, mais là, vous étiez sur Bouillon, et puis même sur toute la région Champagne-Ardennes et ailleurs, on voit que ça a bien verdi. Et c'est vrai pour notre gazon. On voit que notre gazon est bien vert. Donc, on va poursuivre les tontes. Profitez-en peut-être quand même pour laisser, vous savez, je dis toujours entre 5 et 10%, si vous avez un terrain assez important, 5 à 10% d'herbes folles qui permettra d'avoir une belle biodiversité. Vous savez qu'on parle toujours de la biodiversité. Ça permettra d'avoir des coccinelles, d'avoir beaucoup d'insectes. Tout à fait pour conserver aussi toutes ces plantes et avec un petit peu de chance, donc là c'est un petit peu tard maintenant pour les avoir, mais quand même, ça permettrait d'avoir, pourquoi pas l'année prochaine, des orchidées à cet endroit. Voilà ce qu'il faut faire.
Alors justement, Hubert, vous avez parlé d'une chose intéressante, vous avez parlé des gazons, mais comment on fait si on veut avoir justement un bon gazon, une belle pelouse tout au long de l'été? Parce qu'on parle souvent des plantes, on parle des arbres, on parle même aussi de la faune avec vous, Hubert le jardinier, mais finalement... pour avoir une belle pelouse, comment ça se passe l'entretien à ce niveau-là?
Alors, la belle, je vais peut-être être un peu dur là avec vous, Alexis. On s'en fiche de la belle pelouse. Non, ce qu'il faut, c'est que la pelouse soit belle, bien entendu, pour que les enfants puissent aller dedans, que le chien puisse gratter un petit peu. Donc, si vraiment vous voulez une belle pelouse, il faudrait arroser. Je vais quand même pas vous dire arroser votre pelouse, quand même.
C'est pas votre genre.
Il y a quand même une règle, c'est de ne pas tondre trop ras. Laisser l'herbe, on dit qu'on fait du mulch, c'est-à-dire qu'on va laisser l'herbe sur le gazon, sur la pelouse. Bon, si votre gazon ou votre pelouse est à proximité de votre porte d'entrée et que vous avez tendance à rentrer et à sortir, bon, bien entendu, on va ramasser l'herbe. Mais surtout, il ne faut pas tondre trop ras. Et puis, il y a une chose qui est importante, quand il fait chaud et sec, surtout ne pas mettre d'engrais. Que l'engrais risque de brûler. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir, entre guillemets, une pelouse qui est à peu près respectable.
Et vous voyez, Hubert, même pour la pelouse, vous avez des bons conseils à nous donner. Vous le savez, dans cette émission, on pense évidemment aux gens qui vivent à la campagne, mais aussi à ceux qui vivent en ville. On pense aux Rémois, aux Chalonnais, aux Carolo-Massériens, aux Sedanais, par exemple, Hubert le jardinier. Alors, qu'est-ce que l'on fait sur nos balcons?
Alors, nos balcons, vous savez que depuis quelque temps maintenant, puisqu'il y a déjà un moment qu'on a planté ces géraniums, ces surpinias, ces pétunias, à toute la gamme, eh bien, on s'aperçoit que les plantes commencent à avoir un petit peu faim. Alors, elles étaient belles, elles étaient jolies, parce que toutes ces plantes ont profité du compost, du terreau. Et à partir de maintenant, on aurait déjà pu le faire, il faut apporter de l'engrais à toutes ces plantes. Alors, j'ai une astuce, Alexis.
Eh bien, on vous écoute.
L'astuce est simple. Lorsque vous arrosez à l'engrais, quand je dis arroser, vous déposez de l'engrais. Si vous le faites, mettons, approximativement tous les 15 jours, on respecte la dose du fabricant. Si c'est marqué 2 grammes ou une cuillerée, on met une cuillerée d'engrais pour un arrosoir pour un litre d'eau, par exemple. Et au préalable, on aura bien arrosé sa motte, la motte des plantes, hein, de toute façon. La deuxième solution, c'est d'arroser une fois par semaine à l'engrais, au lieu de 15 jours, mais on va diminuer la dose de moitié, c'est-à-dire que de 2 grammes, on passe 1 gramme. Si c'était une cuillerée, on met une demi-cuillerée pour un litre d'eau. Et là, on n'est peut-être pas tout à fait obligé que la motte soit très humide au moment où on va apporter de l'engrais. C'est-à-dire qu'on va nourrir les plantes toutes les semaines. Et puis, il y a la dernière solution, c'est qu'à chaque fois qu'on arrose, et puis on met un petit peu d'engrais. Alors là, on diminue par 4 la dose, c'est-à-dire que si c'est 2 grammes, on met 0,5 ou on met le quart d'une cuillerée à café dans un litre d'eau. Et là, on n'est pas obligé de détremper ou d'arroser au préalable la plante. Elle va en profiter. Je suppose qu'Alexis, vous mangez tous les jours?
Ben, effectivement, a priori.
Mais matin, midi et soir.
Plutôt 5 fois que 3 même.
Si vous grignotez de temps en temps.
Ça m'arrive, effectivement.
Les plantes, elles aiment bien grignoter tous les jours. Et ça leur permettra d'être encore plus belles, plus développées, plus vertes et plus florifères.
Et justement, Hubert le jardinier, c'est vrai qu'on pense aux gens en ville qui ont un balcon, mais il y a même certaines personnes qui n'ont pas d'extérieur. Il y a des plantes d'intérieur, peut-être qu'elles ont un petit peu chaud. Est-ce qu'il y a là aussi peut-être un moyen de les chouchouter, d'en prendre soin, de les nourrir davantage?
Alors, les chouchouter, puisque la lumière est plus importante, en ce moment, il fait plus chaud dans nos appartements. Tout de suite, là, je vous parlais d'engrais pour les jardinières, pour les plantes sur les terrasses. C'est exactement pareil pour les plantes d'intérieur et pour les plantes vertes. Les doses, exactement pareil. Quand je vous ai dit 2 grammes, ben c'est une cuillerée ou une demi-cuillerée, vous faites exactement de la même façon. Et si vous réussissez à récupérer un petit peu d'eau de pluie, je sais que ce n'est pas toujours facile quand on est en appartement, c'est de pulvériser le plus souvent possible le feuillage de vos plantes, par-dessus et par-dessous. Si vous ne pouvez pas récupérer l'eau de pluie, vous ajoutez un petit zeste de citron ou une petite larme de vinaigre pour enlever le calcium dedans pour ne pas avoir les feuilles maculées. Et puis, ça me permet de vous dire, Alexis, lorsqu'on se procure une plante dans une jardinerie ou chez le fleuriste et que la personne qui vous présente la plante vous dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit coup de bombe brillante dessus ou de lustrant ?» Il faut surtout dire « Non, je n'en veux pas parce que souvent, ça brûle les feuilles. » Alors, pas tout de suite. Et 15 jours, 3 semaines après, il y a des plantes qui ne supportent pas le lustrant. On met un peu d'eau, on essuie le feuillage et c'est tout.
Eh bien, on vous remercie pour ces précieux conseils. Hubert, avant de vous quitter, on entend derrière vous des petits bruits de gazouillis. On sent que vous êtes en bonne compagnie. Il y a certainement des oiseaux, pas loin, qui sont en train de faire leur nid.
Oui, c'est ça. C'est la fauvette à tête noire que vous entendez. Écoutez-la. Elle est contente de vous entendre. Elle est sur RCF, notre petite fauvette.
Eh bien, la joie se partage. Et c'est là-dessus que nous, on va se quitter pour aujourd'hui, Hubert. Mais c'est très sympathique et on a bien profité avec ce petit oiseau.
Mais moi aussi, j'en profite bien.
Et vous avez bien raison. À très bientôt, Hubert. Merci pour vos conseils toujours très avisés.
Vous voulez que je vous la laisse encore un petit peu? Là, je vais lui demander de chanter. Allez, ma petite fauvette, c'est à toi. Non, elle veut pas.
Elle veut plus. Voilà, c'est pas sur commande non plus, hein.
Non, faut pas exagérer.
À bientôt, Hubert. Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir.
Eh bien, c'est l'heure de retrouver, après la petite fauvette du jardin de Nicolas Lajardinier.
Ça vous a plu aussi, Jean-Pierre.
Ben oui, on va retrouver notre fauvette qui est avec nous en direct, Alexis Claudretz, qu'on retrouve bien sûr, qui gazouille, mais avec un contenu tous les soirs à 18h30 en direct. C'est le journal régional.
«
Je chante l'actualité, Jean-Pierre, à 18h30, ce lundi 3 juillet, un journal consacré aux violences urbaines sur notre territoire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était à Reims ce midi. Il s'est rendu au quartier Croix-Rouge et a participé au rassemblement civique sur l'esplanade Simone Veil avec le maire Arnaud Robinet. Des rassemblements suivis en région. Nous étions également à Châlons-en-Champagne.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Suite aux violences urbaines et plus particulièrement à l'attaque subie à son domicile par le maire d'Aïs-les-Roses dans le Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun, l'association des maires de France avait appelé ce lundi midi à une mobilisation civique contre la violence, une initiative suivie à Reims.
La Marseillaise a résonné sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Des dizaines de personnes qui étaient entassées sur la place ont repris l'hymne national, entonné par Arnaud Robinet dès la fin de son discours. Dans ce discours, le maire de la ville a tenu à rappeler son incompréhension face aux émeutes, mais également sa détermination à défendre les valeurs de la République.
Ensemble, nous faisons part de notre indignation, de notre incompréhension, mais également de notre détermination. Alors que notre pays, en prenant le prétexte du tragique décès d'un jeune homme, certains ont décidé de casser, d'incendier, de piller, de détruire, d'attaquer. Nous réaffirmons avec force le message républicain. Certains vandales, au mépris de toute idée de civilisation, s'en sont pris à nos forces de l'ordre, à nos policiers, à nos gendarmes, à nos pompiers, à des élus, à des commerçants, à des citoyens. Face à cela, l'État doit être ferme pour que la République soit préservée. Ce n'est pas un rassemblement de résignation, c'est un rassemblement pour la République. Et nous le réaffirmons ce midi, devant notre maison commune. Oui, nos institutions et nos services publics doivent être défendus parce qu'ils sont notre ciment.
Parmi les personnes présentes sur le parvis de la mairie, Catherine Bunel partage totalement les propos d'Arnaud Robinet.
Alors, je suis tout à fait en accord avec ses paroles, tout à fait en accord avec ce qu'il pense. Et c'est pour ça que j'étais là ce matin, justement, parce que je pense qu'il y a une majorité qui était silencieuse jusque-là qui doit se manifester absolument. Il faut que ça s'arrête parce que on a envie de vivre en paix, en fait. On a envie de vivre simplement et en coordination avec tout le monde. Et c'est vrai, revenir à des valeurs qui sont très importantes pour nous.
D'autres, comme Hélène Beurrier et Manuel Cubexo, ne sont pas du tout de cet avis et trouvent cette cérémonie hypocrite.
Alors, monsieur le maire, la raison de faire ce discours est de rappeler à la République, mais aujourd'hui, nous, on était là pour être un peu témoin de l'hypocrisie de tout ça. Et je ne suis pas pour les violences, mais je comprends la haine des gens et tout ce qui se passe, c'est un retour des conséquences de leur haine et de leur ingérence. On a eu absolument 3 minutes de discours. Monsieur le ministre n'a absolument pas pris la parole.
C'est vrai que c'est très dur d'entendre tout à l'heure le discours de monsieur Robinet qui ne parle que d'une certaine forme de violence et que cette violence, en fait, elle a été engendrée par une autre violence à la base, qui est une violence institutionnelle qui s'exerce de plus en plus. Et on oublie surtout celle qui est au centre. Donc la deuxième violence qui est celle qui s'est exprimée ce week-end. Et j'aurais aimé que M. Robinet ait un discours un petit peu plus global, qui prenne en compte ces considérations-là.
Même si tous ne sont pas convaincus par l'initiative, la présence du ministre de l'Intérieur constitue un symbole fort face aux violences qui ont secoué la ville de Reims.
Un reportage de Luca Mastrolillo, stagiaire à la rédaction de RCF Reims-Ardennes, a noté que lors de cet hommage sur l'esplanade Simone Veil à Reims, comme vous venez de le dire, Luca, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, était présent. Il s'était un peu plus tôt dans la matinée entretenu avec Arnaud Robinet, maire de Reims, et Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, puis s'était rendu au quartier Croix-Rouge, au bureau de poste dégradé. Il a apporté son soutien aux agents publics et aux élus.
Pour avoir été maire moi-même et avoir connu dans ma commune de Tourcoing des exactions, on a brûlé une école dans un quartier populaire, je sais à quel point les choses ne sont pas que matérielles, elles sont sentimentales et psychologiques. Je crois qu'il y a beaucoup d'élus aujourd'hui, quel que soit leur bord, qui se disent voilà, on fait beaucoup de choses pour les quartiers, on fait énormément d'écoute, énormément d'accompagnement, et on a du mal à comprendre, et il y a un effet de sidération, on a du mal à comprendre comment on en est arrivé là. Donc je pense que la première réponse, c'est la fermeté, sans excès. Mais c'est la fermeté, c'est ce qu'on a fait en déclenchant le GIGN, le RAID. Ici, il y a eu le GIGN à disposition des forces de sécurité pour éteindre cet incendie, il n'y a pas d'autre mot. Moi, je me réjouis et je remercie le procureur de la République de l'action du garde des Sceaux, de sa circulaire pénale pour les condamnations des comparutions immédiates. Il faut que la réponse soit extrêmement ferme. Une fois qu'on a rétabli cette sécurité, ce que nous sommes en train de faire à la demande du président, il y a l'espoir à construire demain, mais il y a aussi à écouter. Et qui mieux qu'un maire pour nous dire ce qu'il s'est passé et comment comprendre cette situation ?
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé débloquer 20 millions d'euros pour que soient réparées les caméras de vidéosurveillance cassées par les émeutiers. À noter que des rassemblements ont été organisés sur tout le territoire ou presque. À Châlons-en-Champagne, environ 200 personnes étaient rassemblées pour dire non à la violence. Augustin Delavenne, premier adjoint au maire de Châlons, en charge de l'environnement et du cadre de vie.
À Châlons, comme ailleurs, nous avons été la cible de violence. Certaines de nos écoles ont été dégradées, des commerces ont été pillés, une banque a été brûlée. Si rien ne saurait justifier la mort d'un jeune homme, rien ne saurait justifier non plus qu'on dégrade à ce point, avec une extrême violence, nos commerces, nos entreprises, nos bâtiments publics, bref, notre bien commun. Et rien ne saurait justifier que l'on s'en prenne à des élus de la République, des élus qui défendent au quotidien nos territoires, qui s'investissent pour beaucoup corps et âme pour embellir nos villes, nos quartiers et améliorer la vie de nos concitoyens. Les violences dont ont été victimes les maires des Guéroses, de Charleville ce week-end ou de Toulouse il y a quelques jours sont inacceptables, absolument inacceptables. Et il en va de même, évidemment, pour ceux qui incarnent l'autorité ou le service public. En réaffirmant ici notre attachement aux valeurs de notre République, nous espérons de tout cœur que la situation s'apaise et que nous puissions, comme la nuit dernière, revenir à un quotidien normal, un quotidien apaisé.
Des propos recueillis par Christopher Fausten qui de RCF Cœur de Champagne qui était sur place, une mobilisation suivie dans les principales villes de la région comme par exemple devant l'hôtel de ville de Saint-Dizier avec son maire Quentin Brière ou encore à Épernay avec son maire Christine Mazzi et le président de Région Grand Est Franck Leroy, la grande région qui a débloqué un fonds d'urgence de 10 millions d'euros pour reconstruire les commerces et bâtiments publics dégradés. Et c'est dans ce contexte tendu que l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, est allé avec d'autres responsables religieux du territoire à la rencontre d'habitants des quartiers de Reims ce dimanche. Jean-Pierre, petit résumé.
Petit résumé, d'ailleurs, des photos à la une de l'Ardennais et de l'Union, avec l'archevêque et les représentants des autres communautés. Mgr Éric de Moulin-Beaufort, en direct vendredi dès 7h, affirmait qu'il y avait une déclaration qui était prévue avec les autres responsables religieux. Et bien, cette déclaration est sortie, elle est signée du rabbin Haïm Korsia, qu'on connaît bien à Reims, le grand rabbin de France, du recteur de la Grande Mosquée de Paris, du président de la communauté musulmane, du président des évêques orthodoxes, du pasteur de la Fédération protestante, du président de l'Union bouddhiste. Alors, en quelques mots, parce qu'on ne peut pas être trop long, Alexis, on peut souligner que les responsables religieux qui sont engagés depuis longtemps pour la concorde et la fraternité appellent ensemble au dialogue, à la paix, partageant la douleur de la famille de Naël. Prions pour elle, tout spécialement pour sa mère. Nous entendons, ont-ils dit, les souffrances et les colères qui s'expriment. Mais nous affirmons aussi d'une seule voix que la violence n'est jamais un bon chemin. Nous déplorons les destructions d'écoles, de magasins, de mairies, des moyens de transport. Dans ces moments difficiles, nous appelons à la sauvegarde, à la consolidation du lien de confiance nécessaire entre la population et les forces de l'ordre, que tous les croyants soient aujourd'hui plus que jamais des serviteurs de la paix et du bien commun.
Merci Jean-Pierre. Avant de refermer cette édition à 18h38, on passe à la météo avec un nouveau Raphaël cette semaine. C'est Raphaël Feillot qui est avec nous. Bonsoir Raphaël, alors quelle tendance dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce mardi?
Oui, bonsoir Alexis. Demain matin, le soleil sera caché par quelques nuages. La température ira de 15 degrés au nord des Ardennes comme à Charleville-Mézières jusqu'à 18 au sud de l'Aube et Nogent-sur-Seine. La météo se dégradera au fil de la journée avec un ciel couvert sur tout le territoire et des averses de plus en plus fréquentes. Il fera tout de même chaud l'après-midi, 23 degrés sur presque l'intégralité de notre région, comme à Troyes, Reims ou encore Rethel. Nous souhaiterons sinon une bonne fête aux Florents, bonne fin de soirée à toutes et à tous.
Merci Raphaël, ainsi se referme le journal, mais le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et trouver des activités pour occuper ses enfants durant les vacances scolaires ou même un week-end peut parfois s'avérer compliqué. On a quelques bons plans pour vous sur les ondes de RCF en région et on vous propose d'aller découvrir l'aire de loisirs Zigzag Park à Val-de-Velle entre Châlons-en-Champagne et Reims. C'est Christopher Fausten qui nous y emmène.
Alexandre Duval, responsable du Zigzag Park. Bonjour. Bonjour.
L'été est là, le soleil, la chaleur, l'occasion de sortir en famille ou entre amis et surtout avec ses enfants et ses petits-enfants, avec un parc où on retrouve beaucoup, beaucoup de choses à hauteur de Val-de-Vel.
C'est bien ça, le Zigzag, c'est un parc multi-activité qui est ouvert à toute la famille. On est ouvert de 10h30 à 19h, à partir du 1er juillet tous les jours jusqu'au 31 août. Vous pouvez venir vous divertir, vous rafraîchir en famille sur la partie aquatique ou simplement venir jouer sur les œufs secs, les structures gonflables, les cartes à pédales, la ferme pédagogique, le mini-golf ou profiter des labyrinthes végétaux qui vont ouvrir là très prochainement puisqu'on attendait que le maïs finisse de pousser complètement.
Alors beaucoup d'activités à retrouver à Val-de-Vel, un parc qui existe depuis combien de temps ?
Le parc avait été créé en 2006 par un agriculteur du village. Nous avons repris avec mon épouse en 2019, donc c'est la cinquième saison pour nous et on essaye de proposer de nouvelles activités chaque année à nos clients sur le Zigzag Park.
C'est ouvert durant tout l'été avec plusieurs activités. À qui c'est destiné concrètement ?
Le parc est vraiment orienté sur la famille, plus jeune âge jusqu'à pas de limite. Celui qui a envie de venir s'amuser, oui. Bien jouer. Il y a pas d'âge pour jouer en fait. Donc l'idée c'est ça, c'est de divertir un public assez large.
J'imagine que toute une équipe est mobilisée hein, pour faire vivre ce Zigzag Park avec plusieurs pôles, notamment ce qu'on connaît bien au Zigzag Park, c'est le fameux labyrinthe qui est toujours en place.
Oui, on a conservé, hein, c'est l'origine du parc, donc ça c'est quelque chose qu'on souhaitait vraiment conserver au sein du parc. Après, on a agrémenté avec d'autres activités, mais le labyrinthe, c'est quelque chose justement qu'il faut conserver puisque c'est très ludique. Les gens viennent y jouer en famille. Essayer d'en sortir, ça peut prendre plusieurs jours parfois. Non, je rigole, mais c'est sûr qu'il faut avoir un sens de l'orientation et puis un peu de culture générale pour pouvoir répondre convenablement aux questions qui vous sont posées.
Il y a encore un petit peu de recherche à faire pendant les vacances. Voilà, on prévient les enfants et les petits-enfants. Parmi les activités, des animations aussi, vous proposez différentes animations durant la journée, durant l'été ?
Il y a les mascottes qui se promènent parfois, notamment Ziggy, qui est la mascotte du parc, qui est représentée par une abeille. Donc, avec grand plaisir, elle fait des photos avec les enfants, mais il n'y a pas de souci. Ouais.
Avec buvette, restauration sur place, tout au long de la journée ?
Tout au long de la journée, le snack est ouvert d'ouverture jusqu'à la fermeture du parc. Vous pouvez vous altérer, prendre un repas, manger une glace, une crêpe, une gaufre. Il y a vraiment tout ce qu'il faut sur place.
De quoi passer un super bon moment du côté de Val-de-Vel, Alexandre Duval, avant de nous quitter, pour les auditeurs qui souhaiteraient justement profiter d'une activité pendant ces vacances d'été. Il suffit de se rendre sur place directement, de réserver à l'avance. Comment ça se passe ?
Il n'est pas nécessaire de réserver, vous pouvez venir librement. On demande seulement au groupe à partir d'au moins 20 personnes de prendre une réservation, mais autrement, pour le public, aucun souci, l'accès y est libre et vous avez la gratuité pour les enfants de moins de 1 mètre ou à partir de 65 ans sur présentation d'un justificatif.
Et pour plus de renseignements, un site internet, les réseaux sociaux, j'imagine que vous faites vivre ce Zigzag Park à travers les réseaux sociaux ?
Oui, vous pouvez nous trouver, il y a notre page Facebook que vous pouvez suivre sans aucun problème. Et puis après, vous avez notre site internet www.zigzagpark.fr. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Mais vous avez même un numéro de téléphone auquel vous pouvez appeler sans aucun souci et je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des questions.
Voilà, il n'y a plus qu'à. Alexandre Duval, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, responsable du Zigzag Park à retrouver durant l'été, n'hésitez pas, entre Châlons, Champagne et Reims. À très bientôt, belle été à vous.
Merci, au revoir.
Une très belle découverte avec Alexandre Duval que l'on remercie, qui était avec Christopher Fausten depuis Val-de-Vel.
Le 18-19 sur RCF.
Et tout de suite, je vous propose de retrouver avec nous par téléphone un invité, Nicolas Dufour, qui est avec vous, Jean-Pierre Benoît. On inverse un petit peu les rôles, c'est vous qui posez les questions désormais.
Nicolas Dufour, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que si vous êtes avec nous sur l'antenne de Reims et de Champagne-Ardenne, c'est parce que vous avez une entreprise en France qui est implantée à Vandeuil, à quelques kilomètres de Reims, et qui est là-bas depuis 2006 avec vous. Alors il faut dire que cette entreprise, elle compte au niveau national, peut-être même international.
Alors oui, effectivement, donc la filiale française aujourd'hui de ALK est présente en France, comme vous l'avez dit, depuis 2006, à travers deux sites industriels, un site donc à Vendeuil où environ 170 collaborateurs travaillent, et puis un site dans la Meuse, à Varennes en Argonne, avec à peu près autant de collaborateurs, ce qui nous fait en France un effectif de 400 personnes pour représenter donc cette filiale française qui, cette année, a fêté le 8 juin donc les 100 ans du groupe ALK qui a été fondé en 1923 à Copenhague.
Alors ALK, c'est un centenaire qui se porte très bien parce que dans l'actualité et dans la situation actuelle, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'allergies. Et vous, votre spécificité, c'est que vous n'êtes pas dans le prêt-à-porter, mais vous êtes dans le sur-mesure. Alors ça, c'est assez exceptionnel. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors c'est assez unique, comme vous venez de le mentionner, c'est du sur-mesure. Donc ces produits s'appellent les APSIS, c'est-à-dire des allergènes préparés spécialement pour un seul individu. Nous allons recevoir la prescription médicale du médecin allergologue et à partir de cette prescription, nous allons fabriquer des préparations, des traitements anti-allergiques sur mesure, selon l'ordonnance, donc ça peut être des préparations de pollen, ça peut être des préparations d'acariens, et nous allons donc envoyer aux médecins, en fonction de l'ordonnance, des flacons qui vont correspondre à cette préparation qui est spécifique et qui est unique pour l'individu, pour le traiter de façon curative de ses allergies.
Nicolas Dufour, est-ce que c'est vous-même qui préparez les produits ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes indépendant vis-à-vis de la récolte, par exemple des pollens ?
Alors, c'est une très bonne question, puisque le groupe ALK maîtrise la production de ces traitements de A à Z, c'est-à-dire qu'il y a de la récolte des pollens qui se fait chez ALK, il y a des récoltes des acariens qui est aussi chez ALK, et ensuite nous allons développer, ce sont des préparations biologiques, ces traitements 100% en interne, et on expédiera ensuite ces traitements directement chez les patients sans passer par la pharmacie. Donc on est aussi une grosse pharmacie, une des plus grosses pharmacies françaises.
Ça veut dire que, en fait, pour 70% à peu près des produits que vous produisez, vous garantissez un suivi de la chaîne, j'allais dire à la source, jusqu'au consommateur, jusqu'au patient lui-même. Ça, c'est assez exceptionnel.
C'est notre savoir-faire, c'est notre expertise. Nous avons sur le site de Varennes en Argonne une équipe d'une vingtaine de personnes. C'est notre service client qui répond toute la journée aux patients, aux médecins, pour les renseigner sur les spécificités de nos médicaments et aussi apporter des conseils. Mais vous avez raison, c'est unique.
Parce que finalement, on se souvient avec le Covid en particulier, qu'il y a un certain nombre de médicaments, on n'en trouvait plus en pharmacie, il y avait des ruptures et on s'est rendu compte, à la suite de cette crise épidémique, que la France, parfois, elle dépendait beaucoup de l'étranger, beaucoup de firmes étrangères. Vous êtes danois, bien sûr, mais vous pouvez garantir que les produits, vous maîtrisez leur conception et leur livraison.
Oui, exactement. Et bon, aujourd'hui, je me réjouis, rétrospectivement, que nous avons pu passer cette crise du Covid qui a été dramatique, mais dans des conditions plutôt satisfaisantes, c'est-à-dire que nous avons pu maintenir l'activité. Je remercie aujourd'hui aussi l'ensemble des collaborateurs qui ont maintenu cette activité pendant cette année 2020 qui a été difficile, et on a pu continuer à délivrer les patients qui avaient besoin de leur traitement anti-allergique.
Évidemment, Monsieur Nicolas Dufour, vous qui êtes directeur général de la filiale française d'ALK, vous êtes confronté au problème du nombre d'allergologues, de médecins, parce que c'est quand même très spécifique et il y a quand même beaucoup de patients qui souffrent d'allergies, mais il faut qu'ils trouvent des allergologues. Alors là, c'est un autre problème qui n'est pas forcément le vôtre, mais effectivement qui est important.
Alors c'est un problème qui est important, qui est quand même le nôtre. Moi j'aime bien parler d'écosystème de santé, où dans cet écosystème il y a bien sûr les patients, les médecins, les autorités de santé, et puis les industriels. C'est un défi, je pense, pour une nation, c'est un défi pour un système de santé d'anticiper comment les patients allergiques seront pris en charge demain. On sait que les allergies augmentent de plus en plus, cette prévalence, pas seulement les allergies respiratoires, d'ailleurs aussi les allergies alimentaires. Et on sait, d'un autre côté, que le nombre de médecins allergologues diminue d'année en année. J'ai un chiffre en tête, 30% des médecins allergologues partiront à la retraite dans les 5 ans à venir. Donc c'est un vrai problème de conscience.
Alors il y a évidemment un enjeu économique important, à savoir est-ce qu'un pays veut réinvestir en France. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir, parce que vous avez 70% de votre production qui va de la récolte jusqu'au patient, mais vous avez aussi 30% qui dépendent peut-être un peu de l'étranger quand même, ou d'autres firmes.
Alors, déjà, la volonté du groupe ALK, c'est on est présent en France et c'est de rester en France. Hein. Et on espère qu'on pourra continuer à investir en France. On a déjà investi plus de 35 millions d'euros sur les sites au cours des 10 dernières années. Ensuite, comme vous l'avez mentionné, il y a d'autres gammes de traitements. Ce sont les traitements, cette fois-ci, qu'on trouve en pharmacie. Et ce que nous souhaitons, c'est arriver à convaincre notre maison mère, donc le groupe ALK, de continuer à investir en France sur cette nouvelle gamme de produits qui n'a aujourd'hui aucune étape de fabrication sur nos sites industriels.
Pour en revenir, monsieur Nicolas Dufour, à l'entreprise à Vendeuil, il y a les 100 ans, un jeune centenaire, ALK, depuis 1923. Mais est-ce qu'on peut dresser un bilan depuis l'implantation pour vous à Vendeuil dans les années 2005-2006? Bon, il y a eu beaucoup de progrès, vous avez doublé aussi un certain nombre d'employés, enfin vous avez progressé pendant ces années.
Alors, tout à fait, et j'en parle d'autant plus facilement que j'ai rejoint l'entreprise en 2006 et que j'ai vu une progression considérable, et déjà c'est important, c'est le nombre de collaborateurs, on était 175, aujourd'hui on est près de 400 en France, donc on...
Et pour en savoir plus, eh bien, il faudra retrouver notre ami Nicolas Dufour un petit peu plus tard. On vous coupe un petit peu l'herbe sous le pied, Jean-Pierre. Vous avez posé une petite dernière question. Où on peut toujours retrouver Nicolas Dufour en rubrique réécoute sur le site rcf.fr.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on prend la direction de l'Argonne. Depuis maintenant 25 ans, l'école communale de Han dans l'Argonne marnaise a retrouvé une seconde vie en se transformant en bouquinerie de l'Argonne. Cette activité permet également une seconde vie à de nombreux livres et ouvrages, du roman policier au livre historique. Les précisions de Jean Maigret, le patron de la bouquinerie de l'Argonne, au micro de Gérald Gaillet de RCF Cœur de Champagne.
Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous rendre du côté de Han. Han, c'est dans l'Argonne, c'est à une dizaine de kilomètres de Sainte-Ménéhoulde. J'ai près de moi Jean Maigret. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Jean Maigret, quelle est votre activité ?
Bon, je suis bouquiniste. Je précise tout de suite la différence entre libraire, bibliothécaire et bouquiniste. Je vends des livres d'occasion. Un libraire va avoir des livres neufs, le bouquiniste vend des livres d'occasion et le bibliothécaire lui prête des livres. Donc c'est bien la différence, il ne faut pas mélanger les trois. Je suis assez pointilleux à ce niveau-là.
Chacun son métier, on va se dire. Oui. Alors, vous vendez des livres d'occasion qui vous proviennent d'où ?
Écoutez, au départ, pour me constituer un stock, j'en ai acheté sur les brocantes, dans les Emmaüs, principalement. Et puis maintenant, les gens m'amènent des livres. Les gens ont du mal à acheter leurs livres, à les mettre à la benne, comme on dit. Donc les gens me les déposent devant la bouquinerie et l'après-midi, quand j'arrive vers 14h, je trouve souvent des cartons devant la porte. Je trie, je garde ce qui m'intéresse et je mets à la benne ce qui ne m'intéresse pas ou j'en donne à droite à gauche. Donc disons qu'actuellement, je n'achète pratiquement plus de livres. Tous mes bouquins viennent de dons des lecteurs ou des clients. Quoi.
Et alors, quelle est l'activité qui est le plus donnée ?
Si vous voulez, juste avant, je vous présente la bouquinerie rapidement. Donc, j'ai en stock dans environ 50 000 bouquins.
Oui.
Répartis, comme dans les librairies, bien sûr. Il y a principalement des romans. La bouquinerie est installée dans l'ancienne école du village, déjà. Donc, je dispose de 100 mètres carrés, deux salles de classe plus un couloir. Dans une de ces salles, j'ai les romans, qui sont classés, eux, par ordre alphabétique des auteurs, ainsi que les livres d'enfants. Dans le couloir, j'ai tout ce qui est policier. Et dans l'autre salle, la seconde salle de classe, j'ai tout le reste. Le reste, ça va de la médecine au bricolage, en passant par l'histoire, le show business, les sports. Enfin voilà, ça couvre. J'essaie d'avoir un maximum de choses et de genres, de façon à ce que les gens qui font le déplacement trouvent un minimum de bouquins, de livres ou de bouquins, moi je dis souvent bouquins, à leur disposition, quoi.
Alors pour un bouquiniste, c'est un peu logique qu'ils vous disent bouquin.
Oui, bouquin, oui, c'est un terme néo-hollandais, je crois bien, bouquin d'ailleurs. Et voilà, donc je vous dis, je ne sais pas, mais entre 45 000 et 50 000 bouquins disponibles, pour résumer, qui vont du livre, du roman, au livre historique. Les prix sont aussi beaucoup moins chers que, que du livre neuf. Hein. Le livre de poche chez moi est environ à 3 euros, 3 à 4 euros. Le livre lié est à 6 euros, quoi. 6, 8 euros. Donc c'est sûr que ça permet de lire à un prix, à un coût assez plus bas, quoi.
Ouais.
En précisant que le livre, quand même, est assez cher maintenant. Le moindre livre de poche est à 8, 9 euros. Donc la bouquinerie permet de lire à un moins cher et surtout permet de trouver des livres qu'on ne trouve plus actuellement en librairie. Parce que, bon, j'ai des bouquins qui datent de quelques années quand même, des anciens. Et souvent, les gens viennent chez moi pour rechercher un livre bien précis qui leur manque dans leur bibliothèque ou un tome sur les... Enfin, voilà, donc c'est aussi l'avantage de ce genre de commerce, c'est que je dispose de bouquins qu'on ne trouve plus en librairie actuellement, quoi.
Donc ici, c'est l'occasion de venir chiner un peu, trouver ce qu'on cherche, ce qu'on trouve plus ailleurs.
Voilà, souvent les gens viennent pour un bouquin bien précis et finalement ils repartent avec 5-6 livres parce qu'en feuilletant, en cherchant dans les rayons, ils sont tombés sur d'autres livres qu'ils avaient en mémoire ou qu'ils n'avaient pas lu depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est curieux de voir le comportement des gens, quoi.
Vous êtes ouvert de quand à quand ?
Je suis ouvert tous les après-midi de 14h à 18h, y compris le week-end, samedi, dimanche. Par contre, je suis fermé le mercredi après-midi.
Vous gardez les enfants ?
Tout à fait. Non, enfin, c'est...
c'était comme ça, les instituteurs. Les instituteurs, ils ont toujours leur mercredi.
Mais avant qu'elle ne soit en retraite, mon épouse étant institutrice, c'était le seul jour que nous avions libre ensemble. Voilà, donc, et puis j'ai gardé l'habitude du mercredi, donc finalement c'est assez sympathique d'avoir le mercredi de libre.
Et pendant les vacances scolaires, vous travaillez comment ?
Bah écoutez, c'est ouvert en permanence parce que il m'arrive de partir, bien sûr, en vacances, des activités ou des voyages, et j'ai la chance d'avoir des amis ou des anciens clients devenus amis qui me remplacent lors de mes voyages. Donc la bouquinerie est pratiquement ouverte tout le temps. Il n'y a pratiquement pas de jour de fermeture pendant les vacances scolaires. C'est sûr que en plus, les gens ont plaisir à... Je n'ai pas mauvaise conscience. Comme je dis toujours, je vendrai des carottes et des salades, ça serait différent. Mais les bouquins, les gens ont plaisir à venir 3 à 4 jours, voire une semaine, pour me remplacer. Ils prennent plaisir à croiser les clients, ils prennent plaisir à faire le tour. Donc voilà, c'est un plaisir autant qu'un boulot, quoi.
Ouais. Donc en fait, ils viennent faire leur bénévolat tout en faisant de la lecture.
Tout à fait, ils prennent plaisir à... Oui, du bénévolat, on peut le dire, carrément. Et puis, bah oui, il y a des passionnés de livres qui ont plaisir à venir me remplacer.
Ils ne demandent qu'à vous mettre dehors pour en vous remplacer.
Tout à fait, oui, ils sont impatients. Là. Je pense à un ami que j'ai vu ce matin qui va me remplacer là au mois de juillet, je pars 3-4 jours dans les Alpes. Il est heureux comme tout de venir me remplacer. Il est retraité de l'enseignement aussi. Il est heureux comme tout de venir me remplacer 2 jours début juillet. Voilà.
Voilà, donc Jean Maigret est content parce que lui, sa boutique, elle reste ouverte.
Je trouve mon compte. Et les remplaçants sont contents comme tout. Donc je n'ai pas mauvaise conscience.
Mais c'est ça.
À partir.
À partir. Donc vous pouvez quand même partir de temps en temps.
Oui, je ne me prive pas. Non.
Ben quand on a des aides comme ça qui viennent par plaisir.
Oui, donc c'est sûr que c'est bien.
Alors, est-ce que vous avez des clients réguliers, des clients qui...
Oui, j'ai quelques personnes du secteur, principalement, je pense à M. Troisier de la Neuville-au-Pont, qui vient régulièrement tous les mois, il vient acheter 4 bouquins pour lui, voilà. Et puis, je pense aussi à pas mal de personnes qui sont extérieures à la région, mais qui ont des parents en Argonne, qui viennent en vacances régulièrement voir leurs parents et qui, à chaque fois qu'ils viennent, passent à la bouquinerie remplir leur sac de livres d'occasion. Je pense à un couple qui habite au Havre, dont les parents sont insérés en Melzicourt, et ils viennent à chaque vacances, ils viennent avec les... j'ai connu les enfants tout petits, il y a 25 ans quand je me suis installé, et 25 ans après, les enfants maintenant me dépassent, c'est sûr, et dépassent les parents aussi, quoi. Donc oui, j'ai des clients qui viennent exprès pour...
Et qui continuent de poursuivre la fidélité.
Et les parents viennent, donc les enfants suivent, et les enfants finalement ont pris plaisir à venir, donc voilà, oui, c'est sympa comme tout.
Jean Maigret qui était au téléphone avec Gérald Gaillet de RCF Cœur de Champagne, situé dans l'ancienne école communale de Han, près de Sainte-Menou. La bouquinerie de l'Argonne est ouverte 7 jours sur 7, les après-midi de 14h à 18h, vous l'avez compris, sauf le mercredi. vendredi. Merci Luca Mastroilo d'être resté avec nous jusqu'au bout du bout ce soir.
Merci Alexis.
On vous retrouve demain à 18h10 avec tous nos auditeurs pour un nouveau magazine en région. On vous accompagne jusque vendredi soir sur RCF Cœur de Champagne, RCF France Ardennes et sur RCF Champagne Ardennes avec le DAB+. C'était Thierry Deli à la mise en onde. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes dans quelques instants. C'est le Réseau National qui prend le relais avec le journal.